Bonjour à toutes et tous et bienvenue au programme jusqu'à 10h, des solutions et une invitée engagée pour la transition écologique, sociale et sociétale. Et mon invitée cette semaine est un nouveau visage du Parlement européen, une adepte du « en même temps ». Alors pas celui qui a été déposé en 2017, cette femme engagée depuis toujours milite pour la justice climatique et en même temps la justice sociale. Et vous voyez, j'ai déjà dit le mot « justice » deux fois et ce n'est pas un hasard si elle est une des initiatrices de l'affaire du siècle, soutenue par plus de 2 millions de personnes, ce qui n'avait pas forcément plu au gouvernement.
Il y a une bonne mobilisation. La mobilisation citoyenne pour le climat, et je serais tenté de dire, il y a un peu une mauvaise procédure ou un mauvais procès de croire que c'est en allant porter plainte contre l'État dans un tribunal que l'on va pouvoir faire baisser les émissions de gaz à effet de serre. Et ce n'est pas la décision d'un tribunal qui pourrait y contribuer.
Et un succès en appelant un autre, on vous taxe maintenant d'avoir un peu pris la grosse tête. Ah là là, ces journalistes ne sont jamais contents. Mais moi j'ai l'impression que c'est mal vous connaître, car vous êtes aussi active dans l'ombre qu'en pleine lumière. C'est quand même vous qui avez été une des architectes du projet politique d'Europe Écologie Les Verts pour les européennes. C'est aussi vous qui poussez depuis des années cette idée de reconnaître l'écocide. Et c'est encore vous qui militez, marchez, manifestez, tweetez sans relâche. Et on comprend d'ailleurs pourquoi. Pourquoi vous avez déclaré que vous ne savez faire que ça, militer, et vous vous voyez même faire ça toute votre vie.
France Inter. Des idées pour demain. Valère Correa.
Bonjour Marie Toussaint.
Bonjour.
Bienvenue sur France Inter. Vous êtes eurodéputée, cofondatrice donc de l'ONG Notre Affaire à tous. Alors qu'est-ce qui se passe? Vous touchez plus terre? Vous avez pris le melon, la grosse tête? Ça y est, on se sent plus?
Ah bah. On a un taux de croissance pour l'écologie cette année qui est assez extraordinaire, mais la croissance, on se bat souvent contre, puisqu'on a dépassé les limites planétaires de manière très largement et qu'il faut qu'on réduise notre empreinte écologique. Mais on est très content quand il y a de plus en plus de voix pour l'écologie. C'était 2 200 000 personnes qui ont signé l'affaire du siècle, plus de 3 millions de personnes qui ont voté écologiste aux élections européennes. Donc on est content, mais on sait le travail qu'il y a devant nous.
Marie Toussaint, votre credo, c'est que le droit peut être un formidable outil de transformation de la société. Ça, c'est un des points de départ de votre engagement, on va en parler. Mais d'abord, on commence par le commencement, quelque part. L'écologie, ça vous a pris comment? Ça vient d'où cet engagement, j'allais dire presque viscéral?
J'ai grandi dans un engagement de mes parents, de ma famille, de mes proches, dans la lutte contre la pauvreté, contre l'exclusion. Et en fait, ça a été assez rapide. Finalement, je suis née à peu près avec le GIEC, ce groupe international d'experts sur l'évolution du climat qui nous tire la sonnette d'alarme régulièrement sur l'état de notre planète. Je suis née avec ce GIEC et finalement, c'était une évidence qu'on ne pouvait pas protéger les plus pauvres, qu'on ne pouvait pas œuvrer pour la solidarité si on ne tenait pas compte du fait qu'on partageait une seule et même planète. Et donc, l'écologie, c'était une évidence.
En fait, l'urgence sociale, c'est presque le point de départ.
Oui, c'est tout à fait ça. Je ne sais pas si c'est l'urgence sociale, mais en tout cas la nécessité d'être solidaires les uns avec les autres, de dire nous sommes tous égaux, nous avons une égale dignité, nous avons tous le droit de vivre et de vivre bien sur cette planète. Et ben cette question-là, elle ne peut pas se résoudre si on ne tient pas compte de la question environnementale.
Vos études aussi ont joué un rôle sûrement, non? Vous avez fait Sciences Po, vous avez obtenu un master en droit international de l'environnement. J'imagine que ça aussi, ça forge des convictions.
Alors, je le prendrai pas dans ce sens-là. Je crois que depuis très petite, du coup, j'ai envie de participer à sauver la planète avec d'autres et en collectif. Mais du coup, fallait que j'apprenne de plus en plus sur le monde et que j'apprenne de plus en plus d'outils pour pouvoir transformer la planète et la manière dont on vit ensemble les uns avec les autres. C'est ce que je mets derrière le mot « droit », qui peut être un mot aride, mais finalement, c'est notre réglementaire, notre pacte social. Voilà, donc j'ai fait des études qui me permettaient finalement d'acquérir ces outils. C'était pas une évidence. Voilà, je vous ai dit, j'ai des parents engagés, mais des parents qui ne sont pas issus des classes sociales qui font d'habitude les grandes écoles. Donc j'ai eu cette chance-là, et voilà, j'en suis ravie, j'espère que j'en fais bon usage.
Vous étiez politisé à Sciences Po, vous vous êtes intéressé, j'imagine, c'est quand même assez politisé comme école.
J'ai toujours été engagée dans le monde associatif aussi longtemps que je me souvienne. En fait, même gamine.
Ça, c'est pas être politisé le monde associatif.
Enfin. Ah, bah si, c'est la politique si. Avec un grand P. C'est comment est-ce qu'on vit ensemble dans notre société. Mais donc, j'ai toujours fait de l'associatif et à 18 ans, j'attendais d'avoir 18 ans parce que j'attendais d'être grande. Mais du coup, j'ai tout de suite été chez les écolos. C'était un moment où, contrairement à aujourd'hui, les gens qui étaient écolos, mais peut-être que vous le savez aussi, les gens qui étaient écolos, on se moquait d'eux. On disait, mais vous parlez de la fin du monde, c'est n'importe quoi. Et puis les pesticides, en fait, c'est pas grave. Voilà, c'était dur d'être écolo à cette époque-là. Et j'avais beaucoup, beaucoup de respect et d'admiration pour celles et ceux qui déjà défendaient un peu envers et contre tous la question écologique.
C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un peu plus branché d'être écolo. Ça passe mieux, comme on dit.
C'est branché, mais je crois aussi que on le ressent, la catastrophe environnementale. On le ressent parce que il y a des canicules, comme au mois de juin dernier, il y a eu des inondations dans l'Aude en automne dernier, qui ont fait un certain nombre de victimes. Donc, on le sent dans nos vies, on sent la pollution de l'air. On sait qu'on est dans la malbouffe, voilà. C'est plus que branché, en fait, on sait que c'est une nécessité aujourd'hui.
Ça devient une réalité, ouais. Il y a des rencontres qui ont particulièrement compté dans votre parcours?
Oui, bien sûr.
Lesquelles ou laquelle?
Alors, je pense à Valérie Cabanès, qui est une juriste d'abord des droits humains, et puis qui s'est engagée pour défendre les écocides, donc ces graves crimes contre l'environnement par la suite. Elle se bat vraiment corps et âme depuis très longtemps. Elle a écrit des livres, donc si vos auditeurs et vos auditrices veulent en savoir un peu plus sur les droits de la nature et les écocides. Puis il y a d'autres rencontres qui m'ont beaucoup marquée. Je pense à Vandana Shiva, déjà il y a plusieurs années, qui est une militante indienne, qui se bat à la fois pour le droit et le respect des semences, le droit à l'alimentation, et pour les droits des femmes et l'écoféminisme. Et puis la petite dernière, peut-être, c'est Greta Thunberg, dont tout le monde a entendu parler cette année.
Vous vous engagez là pour les prochaines minutes, jusqu'à 10h, à enlever un petit peu votre habit de femme politique et à vous livrer un peu à ce micro?
Alors,
vous allez essayer?
Je suis d'abord une citoyenne et une militante, donc j'essaye d'être moi-même, ouais.
Vous avez un souvenir d'une dernière fois qui a compté pour vous quand vous avez fait votre transition à vous? Puisqu'il y a toujours des étapes, on fait pas ça du jour au lendemain, enfin voilà.
Ouais, alors ça peut peut-être vous surprendre, mais je me souviens de la dernière fois où j'ai mis un tampon. Et vous savez, les tampons...
Non, ça me surprend pas, mais ça peut gêner a priori. En fait, pas du tout. C'est très bien que vous allez sur ce terrain-là.
Ben non, mais alors, les tampons, d'abord, on en achète beaucoup. Souvent, il y a du plastique et du carton. Ça coûte plutôt cher. Et puis surtout, c'est plein de produits toxiques et c'est taxé au même niveau que les autres objets, alors que pour les femmes, c'est souvent un objet de première nécessité. Et donc, on est vraiment discriminé sur cette question-là. Et donc, moi, je suis passée à la CUP. J'ai mis du temps à y arriver et beaucoup d'amis m'y ont entraîné.
Donc là, en mode zéro déchet.
Voilà, en mode zéro déchet et réutilisable, c'est propre, hein, ça se nettoie.
Donc c'est un système qui se substitue en fait...
Qui se substitue au tampon, qui est moins toxique, qui est réutilisable et qui est aussi une manière... voilà, ça fait un sujet rigolo de conversation avec les copines.
Non mais merci de l'avoir dit avec franchise comme ça. Alors un autre sujet, là aussi, qui est un peu caché mais qui n'est pas du tout dans le même registre, c'est le numérique. Le numérique, c'est quand même avec nos mails, cloud et autres drives, beaucoup d'énergie utilisée, beaucoup de data, enfin bref, il y a plein de problèmes autour du numérique à tel point que certains, bah, carrément, ils s'en libèrent, que ce soit pour leur vie privée ou l'écologie. Bonjour Léa Minot.
Bonjour Valère. Et cette semaine, une dernière fois qui n'a l'air de rien, c'est vrai, puisqu'elle est virtuelle, mais elle permet d'amoindrir à notre échelle la consommation d'électricité réalisée par le stockage en ligne, c'est-à-dire effacer ses emails. Car il faut savoir qu'un seul mail pèse environ 10 grammes de CO2. Et Vanessa nous raconte aujourd'hui cette prise de conscience écologique.
Comme tout le monde, j'ai un ordinateur, je me sers de réseaux sociaux. Je m'appelle Vanessa et la dernière fois que j'ai stocké des données en ligne, c'était en janvier 2019. J'ai eu mon premier ordinateur avec Internet quand j'étais chez mes parents. Je devais avoir 12 ans. J'avais 30 minutes, je crois, par mois. Et ça me faisait tellement plaisir quand je mettais mon Internet en marche. Enfin, ma première adresse mail, je m'en souviens bien, c'était une adresse AOL. Et puis, il y avait ma date de naissance dedans. Je suis née en 1985. Je suis quand même une enfant de cette génération-là qui a vu Internet apparaître. J'ai connu les premiers chats en ligne. J'ai eu un amoureux virtuel américain en Floride pendant quelques mois. J'avais 15 ans, quoi. C'était follement excitant. You've got mail. Je gardais ces mails. Je dois même dire que je les imprimais. Bah, c'était pas très écologique. Enfin, j'ai toujours été comme attachée au papier et au fait qu'il y ait quelque chose de matériel. On puisse garder une trace de tout ça. Le cloud, j'ai découvert ça avec la tablette. On me proposait de stocker des choses en ligne. Bon, c'est venu aussi avec le fait de faire beaucoup de photos, des vidéos, donc d'avoir beaucoup, beaucoup de matière à stocker. Et une fois je l'ai fait, ça m'a pas rassurée du tout d'avoir, je sais pas, ces photos dématérialisées quelque part. Et à un moment, j'ai arrêté. Aussi pour une question de protection de ma vie privée. J'avais pas du tout envie que ça soit quelque part flottant dans un nuage où Apple aurait accès à tout ça, ou qui que ce soit d'autre. C'est vrai qu'au départ, pour moi, les enjeux du stockage en ligne étaient plus éthiques, étaient plus pour protéger ma vie privée, et protéger vraiment mes données, parce que j'avais l'impression que je ne savais pas où est-ce qu'elles étaient et ce qu'on en faisait, que pour des raisons écologiques. Et un jour, autour de janvier, février 2019, j'ai réalisé qu'il y avait des data centers énormes qui consommaient une énergie énorme. Ça pollue 10 000 fois plus que tous les camions qui circulent sur cette planète.
Un seul de ces data centers consomme en une journée autant d'électricité que 30 000 habitants.
Et je me suis dit, mais en fait, on s'en rend pas compte parce que c'est juste pas sous nos yeux. Donc ça nous arrange. Sous mes yeux, je peux me montrer le plus décroissante possible, fabriquer ma lessive, manger local, avoir des circuits courts, ne pas acheter de vêtements neufs, et ça, je m'en aperçois tous les jours autour de moi, mais je me rends pas du tout compte de l'existence dématérialisée de data centers qui consomment autant. Et l'un des premiers points, en fait, que j'ai décidé de changer, c'était les emails qu'il y avait dans ma boîte. Ça a été plutôt une démarche sur plusieurs jours, au long cours, m'apercevoir en fait que tous ces mails que je gardais dans ma boîte mail étaient gourmands et consommateurs d'énergie, déjà en plus ils me servaient à rien. J'ai entrepris d'épurer 10 ans de mails de ma boîte mail. Tous les courriers publicitaires, sauf qu'on les met dans une boîte spam. On s'en occupe pas de cette boîte, mais en fait elle consomme vachement. Ne serait-ce que ça, commençait aussi tous les jours, petit à petit, à me désabonner de listes de diffusion qui ne m'intéressent pas. C'est une démarche longue parce que chaque jour, en fait, je peux être amenée à me désabonner de 4 ou 5 trucs. Et puis, en fait, c'est une vigilance, ouais, de tous les jours. Je reçois une information, est-ce qu'elle m'intéresse à long terme et je la garde, ou est-ce que je prends note et je peux effacer tout de suite. Je suis retombée sur pas mal de choses et ça m'a, bien sûr, fait un immensément d'émotions. Ça, il y a des choses que je garde, bien sûr, et puis je peux pas tout imprimer. Mais ça a du sens. Aujourd'hui, moi, j'envoie très peu de mails quand j'ai un truc très intime à dire. En fait, je suis passée à l'audio. Pour moi, c'est une autre manière de garder une trace, peut-être plus vivante aussi. Et j'ai aussi entrepris dans mes dernières parades amoureuses de réinstaurer le papier. Et ça, c'est génial. C'est un autre geste et un autre engagement aussi.
Alors bien sûr, c'est important de nettoyer sa boîte mail, mais le mieux, si on ne peut pas se passer d'Internet, c'est sans doute de minimiser le stockage en ligne via le cloud, par exemple.
La dernière fois que j'ai stocké des données en ligne, merci Léa Minot, et à la semaine prochaine. Marie Toussaint, j'étais en train de me dire en écoutant cette intervention là de Léa que moi j'envoie depuis que mon fils est né, mon dernier fils, j'envoie un petit mail de temps en temps, j'ai ouvert une boîte et j'envoie un petit mail de temps en temps en disant qu'il les lira quand il aura 18 ou 20 ans. Je crois que je vais passer au papier parce que c'est vrai qu'on se rend pas bien compte de tout ce stockage numérique. C'est quoi votre pratique à vous, numérique?
En tout cas, c'est une chouette idée. c'est la galère. Non, c'est la galère.
Parce qu'on peut pas s'en passer, mais on sait que voilà.
Ouais, et puis maintenant c'est tout le paradoxe et la contradiction quoi, c'est que on a besoin de changer de téléphone, par exemple je me suis fait voler mon téléphone il y a pas longtemps et puis on en rachète un puis hop on retrouve tout.
Parce que tout est stocké quelque part dans les data centers.
Mais c'est super pratique et puis en même temps je me dis la personne qui a volé mon téléphone, elle a accès à tout finalement et puis qui d'autre a accès à tout? Peut-être des centaines de personnes, peut-être des milliers de personnes, parce que derrière les GAFAM, derrière Google, derrière Facebook, il y a plein de monde qui peuvent en fait avoir accès à tout si nous on a la possibilité de... Voilà, donc c'est tout le paradoxe. Quand on a lancé l'affaire du siècle, on avait envie de faire cette vidéo qui tourne partout. Mais d'abord sur YouTube, d'abord sur Facebook. Et finalement, c'est sûr qu'il y a un problème avec ces boîtes, et c'est très très bien décrit dans le reportage, qui nous volent nos données, qui en même temps polluent. Voilà, on a l'habitude de dire quand c'est gratuit, c'est que c'est nous le produit, et c'est un des enjeux.
On va parler de vos combats dans quelques minutes, et notamment cette affaire du siècle que vous venez de citer, qui a consisté à mettre en demeure l'État de se justifier sur son inaction climatique. On va y revenir.
D'agir surtout.
Et d'agir, bien sûr, à la fois se justifier et agir, l'obliger à agir par le droit qui, selon vous, doit être un outil de transformation de la société. Vous allez nous dire comment. Juste après, Lana Del Rey sur France Inter. Summertime. And the living's easy. Rallies on the microphone.
phone with Ross and G. All the people in the dance will agree that we're well qualified to represent the LBC. Me and Louis, we gonna run to the party and dance to the rhythm, it gets harder.
Lana Del Rey avec le titre Doin' Time sur France Inter.
Des idées pour demain.
Demain tout ira mieux.
Valère Correa sur France Inter.
Mon invité cette semaine est Marie Toussaint. Vous êtes eurodéputée et cofondatrice de l'ONG Notre Affaire à tous. Le droit, je le disais tout à l'heure, est selon vous un outil de transformation de la société. Un outil aussi parfois à géométrie variable, non?
Eh ben, le droit, il est d'abord, il reflète ce qu'est une société à un moment donné, et ensuite, il peut être utilisé à bon ou à mauvais escient. Je prends des exemples. Quand on dit il y a des droits humains en dessous desquels on ne peut pas avancer, eh ben le droit est censé être un outil pour protéger les droits humains. Et quand on dit aujourd'hui il y a des règles qui doivent s'imposer à toutes et tous, notamment aux entreprises multinationales, alors ça veut dire que normalement partout dans le monde, tout le monde doit respecter les droits humains et je reboucle avec la question du climat, tout le monde doit aussi protéger le climat. Or ce qu'on voit c'est que aujourd'hui les entreprises écrivent parfois le droit elles-mêmes à travers le droit des contrats, à travers l'arbitrage privé, c'est des termes un peu barbares mais qui se passent notamment au sein des accords de libre-échange. Et quand on a par exemple des catastrophes environnementales majeures, des accidents industriels parfois intentionnels, comme en Équateur avec Chevron qui a déversé des milliers de tonnes de pétrole dans la nature pendant des années, qui a fait des dizaines de milliers de victimes, et ben le droit il peut être utilisé soit pour indemniser les victimes, soit pour dire que personne n'est coupable.
C'est une compagnie pétrolière, hein,
Chevron, tout à fait l'une des plus grandes pollueuses mondiales, et qui a été finalement considérée comme irresponsable.
Marie Toussaint, oui, on peut que dire oui à ce que vous dites là. Mais dans les faits, et parfois sur des règles, j'allais dire, de la vie quotidienne, c'est pas appliqué, c'est pas la règle n'est pas appliquée de la même manière pour les uns et pour les autres, on arrive à la contourner. Alors est-ce qu'il faut faire avec cette imperfection, j'allais dire, inhérente à la règle, ou enfin voilà, comment vous vous positionnez par rapport à ça ?
Non, mais c'est ce que je souligne, c'est qu'en fait, le droit finalement, il exprime ce que nous sommes. Aujourd'hui, il y a eu un moment où, par exemple, le droit à l'avortement n'était pas autorisé, il ne l'est pas encore partout sur le territoire européen. Il y a eu un moment où on a dit que les plus pauvres avaient la possibilité de se nourrir, quand bien même ils n'avaient pas les sous pour acheter à manger.
Ça, c'est l'état de nécessité,
le droit,
c'est ça ?
Voilà, l'état de nécessité, et donc le droit évolue en fonction aussi des valeurs d'une société. Une fois que j'ai dit ça, on peut soit décider qu'on laisse le droit être écrit par d'autres, ces entreprises multinationales pollueuses dont je vous parlais, ou d'autres, ou alors on peut décider que nous, citoyennes et citoyens, on récupère le droit et qu'on en fait à nouveau un outil pour transformer le monde à notre sauce. Et donc, ce qu'on a fait avec notre affaire à tous, ce qu'on faisait déjà avec un mouvement international qui s'appelle End Ecocide, c'est de se dire, on veut récupérer cet outil-là, on veut mettre fin aux crimes contre l'environnement, on veut garantir une obligation pour les États d'agir pour protéger notre planète et notre santé et nos vies. Et donc, pour tout ça, on se saisit du droit.
Notre affaire à tous, on peut en redire un mot, donc, parce que vous avez réuni beaucoup de signatures, c'est d'ailleurs un des arguments forts que vous mettez en avant, mais dans les faits, est-ce que vraiment ça va faire avancer les choses? C'est une autre question.
Alors, notre affaire à tous a mené beaucoup de campagnes sur le climat dans la Constitution, sur l'obligation pour Total de s'inscrire dans le respect de l'accord de Paris, de la protection du climat, ce qu'ils ne font absolument pas aujourd'hui, ou encore l'affaire du siècle avec Greenpeace, Oxfam et la Fondation pour la Nature et l'Homme. Il y a une procédure juridique qui a été lancée.
Voilà, donc l'affaire du siècle. J'ai dit notre affaire à tous, mais qui est un des instigateurs de l'affaire du siècle.
Qui dure 2 ans, à peu près. Hein. Donc maintenant, les associations attendent
la réponse. Vous en demeure l'État.
La réponse du juge.
D'agir pour le climat.
La demande qui a été faite à l'État, c'est de dire, il faut reconnaître une faute de l'État, parce que dans tous les secteurs de la politique climatique, l'État français est en retard. Et deux, il faut avoir une obligation d'agir et que l'État agissent dans toutes ses capacités pour répondre à ce retard, ce qui n'est absolument pas le cas aujourd'hui. Et on l'a encore vu avec les textes sur la loi mobilité ou encore le plan énergie-climat. Donc les associations attendent ce retour-là. Parfois, on nous dit que c'est pas très efficace et que ça prend du temps. Mais on a bien vu qu'il y a des combats qu'on a menés pendant 20, 30, 40, 50 ans avant d'avoir des résultats.
Est-ce qu'on a encore 20, 30, 40, 50 ans?
Bah non, mais c'est bien ça le sujet. Aux Pays-Bas, Urgenda, une association, avait lancé une action quelques années avant l'affaire du siècle. Ils ont gagné en 2015. Leur victoire a été confirmée en 2018. Et les Pays-Bas sont aujourd'hui l'un des pays dotés d'une des lois les plus ambitieuses en matière climatique. Et ils agissent et ils rattrapent petit à petit leur retard d'une manière beaucoup plus rapide que ce qu'on fait aujourd'hui en France.
On reste un peu dans ce champ du droit outil pour changer le monde. Vous avez quand même déclaré que tous les moyens sont bons pour répondre à l'urgence climatique et même la désobéissance civile. Donc finalement, parfois, il faut aussi, selon vous, transgresser la règle pour faire avancer la cause.
Alors la désobéissance civile, ça peut être aller à l'encontre de la loi. Parfois, c'est juste s'inscrire dans le cadre d'une résistance. Par exemple, il y a des militants d'Extinction Rebellion, qui est un nouveau mouvement qui est né cette année, qui bloque des magasins pour interpeller l'opinion sur la société de consommation. Mais la désobéissance civile, ça a été un moyen d'action utilisé dans de très nobles combats contre le colonialisme, contre l'apartheid, contre l'esclavage. Le GIEC nous a dit, nous avons jusqu'à 2020 pour atteindre un pic d'émissions si on veut respecter les accords de Paris. 2020, c'est demain. 2020, c'est aujourd'hui.
Donc, tous les moyens sont bons.
Et on voit bien qu'on n'y est pas. Et donc, d'aller bloquer des grandes pollueuses comme Total, dont je vous ai parlé tout à l'heure, d'aller bloquer des grandes banques qui financent ces entreprises, d'aller bloquer Bercy qui subventionne ces entreprises.
D'aller décrocher des portraits de Macron ou...
Bah après, il faut faire preuve d'un peu de créativité et d'imagination. Mais oui, ça peut faire partie des moyens d'action si tant est que ça respecte les principes de non-violence.
Et puis justice climatique, justice sociale, donc même combat, c'est ce que je disais tout à l'heure dans mon petit billet d'introduction. Et ça, c'est vraiment un point qui vous est cher. Tout ça va dans la même direction et c'est un combat commun.
Il y a quelques semaines, il y a un article qui est sorti après une rencontre de l'ONU qui s'appelait Climate Apartheid. Donc l'apartheid du climat. Et effectivement, au niveau nord-sud comme au sein des territoires, ce sont les plus riches qui ont le plus contribué à la pollution de la planète et les plus pauvres qui sont aujourd'hui les déplacés climatiques, qui perdent leur maison, qui ont leur santé abîmée, y compris en France. Et il faut absolument dire stop à cette injustice sociale profonde qu'est le réchauffement climatique.
Je suis à la recherche d'une alternance dans le domaine du marketing et j'ai tout de suite pensé à Cravate Solidaire.
Depuis 2012, ce sont des milliers de candidats qui ont bénéficié des ateliers de la Cravate Solidaire dans toute la France. Et selon nous, nos statistiques, 70% de nos candidats réussissent leurs entretiens d'embauche et ont beaucoup plus confiance en eux.
Marie Toussaint, vous n'êtes pas venue seule. Nicolas Gradziel, cofondateur de l'association La Cravate Solidaire, vous accompagne. Pourquoi lui ?
Pourquoi lui ? La cravate solidaire.
Et pourquoi la cravate solidaire, évidemment.
Oui, oui, oui. On doit inventer une société, une économie qui respecte les limites planétaires et garantisse la solidarité. C'est un peu ça notre enjeu. Cette économie-là, c'est une économie que porte la cravate solidaire. Je pense que Nicolas va expliquer un peu ce qu'il y a derrière, mais qui est une économie du partage des ressources et de la réutilisation des objets, qui est une asso aussi de solidarité et qui travaille à l'insertion professionnelle durable des plus éloignés du travail. Donc c'est vraiment le monde de demain.
Écologie et quelque chose sociale, là, il y a les deux.
Et quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est que cette économie de demain, eh ben, c'est des jeunes qui l'ont impulsée, assez jeunes d'ailleurs, parce que Nicolas est maintenant plus âgé, mais ils sont partis assez jeunes, et je trouve ça vraiment admirable, et voilà.
Bonjour Nicolas Gradziel.
Bonjour.
Quelles sont les activités de la Cravate Solidaire ?
Alors, l'objet de la Cravate Solidaire, c'est de transmettre les codes de l'entreprise à des personnes en recherche d'emploi, donc à travers le don d'une tenue professionnelle et aussi la transmission des codes verbaux et non-verbaux à maîtriser en entretien d'embauche.
Le don d'une tenue professionnelle, ça veut dire que vous avez des gens qui vous donnent tout simplement des vêtements des tailleurs, costards, cravates et autres, d'où d'ailleurs la Cravate Solidaire, et vous les mettez à disposition, vous les donnez à votre tour donc à des gens en recherche d'emploi qui n'ont pas forcément les moyens de s'habiller, c'est ça ? En tout cas, pour trouver un job ?
C'est ça, nous, notre constat de départ, on était trois potes étudiants à la Défense, et en fait, s'acheter un costume pour aller en entretien au départ, c'est compliqué quand on est étudiant, quand on cherche du travail. Et en côtoyant toutes ces personnes en costume autour de nous, on s'est dit pourquoi pas essayer de récupérer tout ce qui dort dans l'armoire de ces personnes et de les redistribuer gratuitement aux gens qui cherchent du boulot. Et de là, on a essayé de répondre de manière assez pragmatique et concrète aux problématiques qu'on rencontre au fur et à mesure de nos accompagnements. Et donc, on a imaginé un accompagnement de 2 heures par personne où on a 3 étapes, du coaching en image, où avec l'apport de bénévoles coach en image, on va trouver une tenue adaptée au projet des gens et à leur goût. Cette tenue leur est donnée gratuitement. Une fois qu'ils sont en tenue, on va leur proposer de passer un petit entretien blanc. Donc on a des coachs RH qui interviennent, qui sont eux aussi bénévoles. Et l'idée, c'est de faire prendre conscience aux gens de leur talent. C'est une phrase un peu bateau, mais en tout cas, qu'ils prennent conscience de leurs compétences, du fait que si ils font pratique des loisirs en particulier, s'ils sont capitaines de leur équipe de foot, par exemple, c'est une qualité à mettre en avant. Et donc ça, grâce à l'intervention de bénévoles coachs RH. Et à la suite de ce petit entretien blanc, ils vont faire une petite photo de CV, où l'idée, c'est qu'ils puissent être fiers de l'image qu'ils vont renvoyer d'eux à la fin de l'atelier.
Marie Toussaint, donc, qui a décidé de vous inviter ici, a fait remarquer très gentiment que donc, les années passent, hein, manifestement. Vous vieillissez, mais quel âge vous aviez quand vous avez cofondé la Cravate Solidaire ?
On a créé l'association à 22 ans. Et en fait, sur un coup de tête, copier-coller des statuts sur Internet pour créer une association, il n'y a rien de très compliqué. Le nom, il est venu tout seul et l'idée, elle partait des gens de tout ce qu'on a pu constater autour de nous et du fait que, oui, aussi, on était engagés, nous, dans notre propre vie, même avant, et qu'on voulait agir de manière concrète à notre niveau, quoi, tout simplement.
Les résultats aujourd'hui, vous pouvez les quantifier, j'imagine. Qu'est-ce que ça donne ?
Alors, la Cravate Solidaire, elle est présente maintenant dans 9 villes en France. On accompagne plus de 2000 personnes par an à travers les ateliers coup de pouce dont je parlais tout à l'heure. Et on essaye d'organiser un petit suivi des personnes qu'on accompagne. Effectivement, 70% d'entre eux réussissent leurs entretiens. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on s'approprie pas ces 70%. Nous, on est en complément d'une chaîne de l'insertion où les acteurs classiques comme les missions locales, les écoles de la seconde chance vont pouvoir répondre à énormément de problématiques sociales. Et au moment où un projet professionnel est bien défini et que les gens sont prêts à retrouver du boulot, nous on intervient pour être le petit coup de pouce supplémentaire.
Et là, vous êtes passé en version mobile. Vous pouvez me dire ça, vous expliquer en un mot, c'est quoi cette nouveauté ?
Alors, la Cravate Solidaire mobile, c'est un gros projet qu'on bosse depuis 2 ans, où en fait, on s'est rendu compte que plus de 30% des personnes qui venaient pas à nos ateliers, en fait, c'était pour des raisons de frein de mobilité. C'est pas anodin, notamment sur Paris, en région parisienne, on va vite toucher les 10 euros pour faire l'aller-retour d'une ville de banlieue jusqu'à Paris. Et donc, on a voulu se rendre mobile et aller directement au contact des personnes qui en ont besoin, qui nous sollicitent.
Vous parlez beaucoup de bénévolat. Il y a sans doute donc toute une communauté bénévole et engagée à vos côtés et qui vous donne du temps et qui donne du temps aussi aux personnes que vous accompagnez. C'est comme ça qu'on peut notamment vous soutenir si on veut maintenant donner un coup de main à cet asso en ayant écouté ça ce matin.
C'est ça, si vous voulez vous investir comme bon projet de rentrée, vous pouvez consulter notre site internet, voir les associations locales proches de chez vous, et notamment on pense à la Cravate Solidaire Bordeaux qui vient de se lancer, Metz qui est en cours, et la Cravate Solidaire Mobile qui s'établit dans les départements du 93-95, donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et chacun peut s'investir et s'impliquer à son niveau, même si vous voulez en parler dans votre entreprise pour qu'on organise une collecte de vêtements et dévaliser les placards de vos collègues, c'est l'occasion.
lacravatesolidaires.org donc pour en savoir plus. Merci beaucoup Nicolas Gradiel, je rappelle que vous êtes cofondateur donc de l'association La Cravate Solidaire. Merci donc d'avoir accepté l'invitation de Marie Toussaint. Marie Toussaint qui est eurodéputée mais aussi une militante de la première heure. Moi, j'ai bien envie de savoir comment vous mettez en cohérence tous ces engagements et ce militantisme avec dans votre vie à vous, votre vie de tous les jours, et j'espère bien que vous allez tout nous dire ou presque juste après Hubert Lenoir sur France Inter. Hubert Lenoir, fille de personne sur France Inter.
Êtes-vous libre demain ?
France Inter, des idées pour demain.
Entendu, à demain.
Valère Correa.
Marie Toussaint est mon invitée cette semaine. Vous êtes eurodéputée, cofondatrice de l'ONG Notre Affaire à tous, militante depuis la première heure. On parle beaucoup d'économie circulaire en ce moment, Marie Toussaint. Est-ce que ça a de l'avenir dans une société du tout jetable? Est-ce qu'on n'est pas là encore une fois dans une jolie idée mais qui s'installe juste dans un système qui permet pas de l'accueillir?
Alors non, c'est l'inverse de la société du tout jetable, l'économie circulaire. Par contre, il y a deux versions à l'économie circulaire. Il y a la version qui veut qu'on recycle tout ce qu'on produit. C'est par exemple ce qu'on prévoit en ce moment en France sur le plastique. Et puis il y a la version où on dit on consomme trop de produits inutiles. Et d'ailleurs, le plastique, en fait, souvent, quand on regarde, c'est vraiment inutile. Et donc, faut arrêter d'en produire. Faut en produire moins, faut faire autrement, faut faire sans. Et en fait, il y a plein de solutions qui existent déjà. Et donc, c'est plutôt vers cette économie circulaire-là que je pense qu'il faut aller. Et en fait, ce qui est super, c'est que on réinvente plein de choses qu'on reprend d'anciennes recettes du passé, qu'on remélange, la consigne, les verres faits à partir d'algues, voilà, tout ça c'est sympa, c'est possible et c'est pas forcément plus cher.
C'est vrai, mais je m'interroge quand même sur la réalité que ça peut devenir, encore une fois, dans une société du tout jetable. On est vraiment ancré dans le tout jetable, c'est impressionnant. Vous pensez vraiment qu'on va pouvoir transformer ce modèle de société, et notamment grâce à l'économie circulaire et...
Bah, vous avez raison, c'est une vraie bataille. C'est une vraie bataille. Je vous parlais du plastique. Par exemple, le plastique, à un moment, ils faisaient des recherches et ils ont réussi à faire un film plastique extrêmement fin, mais extrêmement solide. Et ils se sont dit, mince, il n'y a pas d'utilisation pour ça, à quoi ça va servir? Et donc, ils ont inventé qu'ils allaient mettre ça autour des chemises dans les pressings. Et donc, maintenant, vous avez ce petit bout de plastique qui ne sert à rien, qui est dans tous les pressings. Donc, en fait, quand on regarde autour de soi, dans notre vie quotidienne, on voit bien qu'il y a des objets partout et que les lobbies nous oblige à consommer ces produits, nous rendent dépendants de ces produits. Finalement, quand on regarde, on se dit, ah mince, on ne sait plus faire sans. Et donc, c'est une bataille à la fois individuelle, mais aussi vraiment collective. Et il y a des rapports de force puissants, économiques, qui sont là. Et donc, c'est pour ça qu'on a aussi besoin beaucoup de changer les lois, pour pouvoir justement redonner le pouvoir aux citoyens face à ces grandes firmes qui nous ont habitués à des objets
et changer de modèle
polluants
peut-être
et
carrément,
toxiques.
Non.
Ah bah après, si vous me demandez s'il faut sortir du capitalisme, je vous dirais évidemment du capitalisme, du libéralisme. En fait, il faut qu'on retrouve une économie, moi je dis une économie de la nature, quoi, une économie qui respecte la nature, qui soit au service de la nature. Et ça, c'est absolument possible.
Réparer, c'est un rempart à la production de déchets notamment, mais aussi ça permet d'éviter des dépenses inutiles. Pour en parler, Camille Dufetel vient de nous rejoindre. Vous êtes rédactrice en chef de l'infodurable.fr. Bonjour Camille.
Bonjour Valère.
Petit conseil rapide pour réparer un drap dont le jour n'a pas résisté aux années. Vous couperez bien au milieu le jour, car le petit picot formé par le jour sera la finition sur l'envers de votre réparation. Sur l'ourlet et sur le drap reliant les deux, vous mettrez un entre-deux qui porte bien son nom comme vous le voyez. Inutile de vous préciser que la dentelle et le tissu sont presque bord à bord.
On va jeter donc un œil dans le rétroviseur des solutions et parler réparation, Camille.
Oui, imaginez-vous bien, on est à l'été 1967. Mon père a 9 ans, dans 15 jours, c'est la rentrée des classes à Sibiville, un petit village du Pas-de-Calais. Ma grand-mère Solange inspecte le cartable en cuir de mon père et il est quand même bien abîmé. Du coup, que font-ils?
Eh bien, ils ont vu une pub à la télé du dernier cartable mieux que tous les autres et ils vont en acheter un.
Non, évidemment, c'était une toute autre époque, hein, direction le cordonnier qui réparait les chaussures de toute la famille. Ma grand-mère Solange et mon père entrent là. Il y a une forte odeur de cuir et des cartables un peu partout. Hein. Le cordonnier n'avait clairement pas intérêt à prendre ses vacances à ce moment-là, hein, c'est clair. Parce qu'il en avait du boulot, il prend le cartable de mon père, il l'inspecte. Mon père espère secrètement qu'il n'y a plus rien à faire pour sauver son cartable, qu'on va pouvoir lui en racheter un nouveau. Et là, bim, pas de problème Solange, dit le cordonnier, je vous répare ça pour la semaine prochaine. Eh bien oui, à l'époque, réparer plutôt que racheter, c'était juste évident.
Oui, on réparait plus, on faisait recoudre les vêtements aussi. Par contre, du côté des appareils, notamment électroniques?
Déjà, il n'y en avait pas autant qu'aujourd'hui, ouais. C'est sûr. Il y avait beaucoup d'appareils mécaniques aussi, donc c'était plus simple. Puis il y avait toujours un voisin qui s'y connaissait. Voilà, il y avait beaucoup d'entraide, on était un peu en mode système D, débrouillardise. Alors qu'aujourd'hui, on nous pousse à consommer plus, à remplacer nos objets. objets, nos appareils électroniques et compagnie, et je ne parle même pas de l'obsolescence programmée.
Oui, d'ailleurs, on a parfois tendance à remplacer vite nos objets aussi, parce qu'on se dit que ça nous coûte même moins cher que des réparations. Du bon, allez, c'est bon, j'en achète un autre.
Non, pas forcément. La réparation, ça permet de faire des économies, c'est juste que c'est un effort qu'on n'a pas toujours le courage de faire, hein, et pourtant, ça participe à l'économie circulaire, on en parlait, ça permet de consommer moins de ressources, de produire moins de déchets. C'est vraiment important d'avoir ce réflexe, que ce soit aussi bien pour de l'électroménager que des sacs, des vêtements ou encore des meubles.
Et concrètement, alors, on fait comment pour réparer nos équipements et objets quand on est exactement comme moi, c'est-à-dire pas du tout bricoleur?
Direction les services après-vente des fabricants ou des distributeurs, les artisans réparateurs agréés ou indépendants. On peut aller faire un tour aussi sur des plateformes en ligne pour apprendre à réparer soi-même, pour trouver des pièces détachées et puis poser ses questions sur spareka.fr par exemple, soesav.fr, commentreparer.com ou encore ifixit.com. Ça rend fier en plus de s'y mettre soi-même sans que ça nous coûte cher.
Et on peut aussi se rendre dans les fameux Repair Café qui commencent à émerger un peu partout.
Les Repair Café, en fait, ce sont des événements organisés un peu partout en France et même dans le monde d'ailleurs, au cours desquels on peut réparer ou on peut apprendre à réparer auprès d'experts bénévoles son grille-pain, sa cafetière, son ordinateur et compagnie. Pour en trouver un près de chez soi, direction repaircafé.org.
Et c'est seulement après avoir tenté tout ça qu'on n'a plus d'autre choix donc de remplacer son objet. Et là, évidemment, toujours un même réflexe, c'est la seconde main.
Voilà, quand on n'a plus le choix. Et globalement, il faut aussi préciser que tout se passe en amont. Si on achète mieux, eh bien, on aura moins de problèmes. Et pour s'aider, on va par exemple sur le site produitsdurables.fr qui a été lancé il y a quelques mois, notamment par l'association Halte à l'obsolescence programmée. On va y retrouver différentes marques dans le domaine de l'électroménager, de l'électronique, du transport et un peu du textile. Elles sont notées en fait selon la capacité à durer de leurs produits avec des avis d'experts mais aussi de consommateurs. Et puis l'essentiel, c'est aussi évidemment de prendre soin de ses affaires. C'est la base pour les faire durer.
Évidemment. Et pour plus d'informations sur la réparation, on va sur l'infodurable.fr. Merci Camille. Marie Toussaint, vous avez récemment essayé de réparer un truc chez vous? Non, c'est pas sympa cette question.
Non, ça va très bien. Oui. Alors, mais j'ai pas mal de problèmes de plomberie à la maison, pour être honnête, donc ça marche pas bien.
Après là, ça demande une compétence un peu particulière.
Mais pas tant que ça, parce que en l'occurrence, il fallait changer des joints et même ça, j'étais. Mais il faut savoir le faire et du coup, j'essaie de faire appel à mes voisins.
L'entraide, la coopération, tout ça. Donc la réparation, c'est quand même pas trop votre truc parce que vous êtes pas bricoleuse.
Non, mais par contre, je répare mes vêtements. On peut recoudre. Au départ, c'était pas naturel pour moi quand j'étais ado, tout ça. J'ai pas appris ça avec ma grand-mère, avec ma mère. J'ai juste appris sur le tas. Mais c'est vrai que c'est important de savoir se débrouiller tout seul, parce qu'en fait, on dépend tellement tout le temps des autres que c'est quand même bien de savoir se débrouiller soi-même et avec ses voisines et ses voisins, quoi.
Et ça donne un peu d'estime à soi-même aussi au passage. Au quotidien, vous pourriez servir d'exemple à toutes celles et ceux qui veulent faire leur transition et sauver la planète et l'humanité?
Au quotidien, moi, je pourrais servir d'exemple. Pas tellement, je crois. Moi, je suis comme tout le monde, en fait. J'essaye de faire ce que je peux et il y a des choses que j'arrive à faire et d'autres pas.
Ouais, mais vous n'êtes pas comme tout le monde, Marie Toussaint, parce que j'ai plein d'invités qui sont passés ici derrière mon micro et qui me disent « Oui, c'est vrai, je fais pas tout comme il faudrait. Alors moi, je prends un peu trop ma bagnole, moi, je prends un peu trop l'avion, moi, je mange un peu trop de viande. » Bref, qu'importe, chacun a ses paradoxes. Mmh. Mais c'est pas paradoxal aussi quand on est dans un mouvement d'engagement, de vie publique, de pas être justement totalement irréprochable sur ces sujets et d'être capable d'en parler en disant « Oui, moi, j'ai fait ma transition à 100%. » C'est une question.
Je crois vraiment qu'on est tous des êtres humains. Et je crois aussi que ce n'est pas nos individus qui détruisent la planète. Mais ce que je crois par contre vraiment, c'est qu'il faut faire des efforts. Par exemple, j'essaye de mettre mon argent dans des banques qui ne subventionnent pas trop les énergies fossiles, voire pas du tout, j'aimerais bien, mais il n'y en a pas tant que ça. J'essaye de ne pas acheter trop de vêtements. Je porte mes vêtements pendant longtemps. Parfois même, on me le reproche. On me dit, celle-là, ça fait vraiment trop longtemps. Quand je les jette, d'ailleurs, mes vêtements, en fait, soit je les donne à des ressourceries, soit je les jette dans des boîtes pour les faire recycler. Je ne mange de la viande que quand je suis invitée chez des amis ou dans la famille, puisque j'ai pas envie de les embêter. Mais en tout cas, moi, j'en mange pas de mon côté. Voilà.
C'est déjà pas mal tout ça quand même.
Il faut faire ce qu'on peut. Mais moi, ce que je veux dire à chacune et à chacun, c'est faites ce que vous pouvez. Je crois qu'on a tous un pouvoir, là où on est, pour changer le cours des choses. Je pense par exemple à ces étudiants qui ont dit « nous, on n'ira plus travailler, on a fait des grandes écoles, on est censé aller travailler pour des grands pollueurs, mais en fait, on ne veut plus, on ne veut plus de ce monde-là. » Et leur engagement à eux, c'est celui-là. Il y a des boulangers qui disent « moi, je fais plus de pain s'il y a du glyphosate dans la farine. » Et leur engagement à eux, c'est celui-là. Et je crois qu'on peut tous aller chercher les manières de nous entraîner vers notre transition.
J'aimerais qu'on parle encore un petit peu de vous, pas la femme politique, mais vous, la citoyenne, comme vous disiez tout à l'heure. Dites-nous, comment vous vous déplacez? Où est-ce que vous faites vos courses? Dévoilez-nous un petit peu aussi ce quotidien, vos solutions à vous, justement, pour essayer de vivre, sinon sobrement, en tout cas avec le moins d'impact possible. Parce que je sais que vous êtes très engagée, je le sais, donc racontez-nous un petit peu. Vous les faites où, vos courses, par exemple?
Alors, mes courses, je les fais majoritairement parce que de
vous habitez dans une grande ville, vous habitez à Paris, j'imagine.
J'habite à Paris et à Paris, on a la chance peut-être d'être une ville où il y a beaucoup d'épiceries qui font des produits bio ou des produits locaux, en tout cas en circuit court, c'est-à-dire qui connaissent les producteurs auxquels ils achètent leurs produits. Donc ça, c'est une solution. Quand on mange correctement, c'est pas forcément plus cher. Donc faut faire attention, des fois
ça l'est. Souvent on dit bien manger en circuit court, manger bio, etc.
Mais des fois ça l'est. Des fois ça l'est moins. Donc il faut regarder et voilà, avancer comme ça. Comment je me déplace? Je fais pas beaucoup de vélo, moi. Alors on m'a offert un très beau vélo il y a 4-5 ans, mes amis m'ont offert un très très beau vélo.
C'est sympa.
Et en fait, je marche beaucoup. Voilà, donc je suis plutôt à pied.
L'avion, mais ça, vous faites attention un peu à la... en ce moment, parce que on en parle beaucoup de l'avion.
Oui, évidemment. Alors, j'ai pris l'avion pendant la campagne pour aller à l'île de la Réunion et j'y ai rencontré des gens extraordinaires qui se battent contre des projets climaticides terribles. Je pense notamment à la route du littoral qui est prévue là-bas sur des digues. Voilà, c'est un très beau combat mené par des femmes dynamiques, j'adore ça. Je leur souhaite bon courage. Et puis, j'ai ma famille qui habite, elle aussi, dans l'océan Indien. Mais c'est vrai que quand je prends l'avion, j'essaie que ce soit sur des périodes extrêmement longues et que ce soit vraiment pas tous les ans, mais tous les 2-3 ans.
Cette vigilance, en tout cas, qui est là. Une dernière question, et je la pose à tout le monde à chaque fois dans cette émission. Donc il faut être évidemment concis, super intelligent et différent des autres. Hein, voilà, c'est le challenge. Mmh. Est-ce que ça compte vraiment, ces petits gestes, ou alors est-ce que c'est du vernis et honnêtement, c'est pas par ça que ça passera?
Ce que je dis souvent, c'est qu'il n'y a pas de petite bataille et pas de petits gestes pour sauver la planète, mais une seule, même et grande bataille pour protéger l'humanité et le vivant. Est-ce que ça va comme réponse?
Ah, c'est la votre réponse. Merci Marie Toussaint.
Merci
d'avoir accepté mon invitation. Un petit rappel donc sur l'ONG que vous avez cofondée, c'est notreaffaireatous.org. La semaine prochaine, je recevrai une artiste qui a d'abord été engagée, puis ensuite elle a été très connue et elle s'appelle Zaz. Pour réécouter des idées pour demain, c'est sur franceinter.fr ou avec l'appli France Inter. Cette émission a été réalisée par Jérôme Boulet, préparée par Antoine Vandeville, à la technique Pauline Laverdure et à la programmation musicale Djoubaka. Salut, à la semaine prochaine.